Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est midi en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. La situation à Los Angeles avec la mise en place d'un couvre-feu et le déploiement de la garde nationale, les troubles sont restés contenus entre manifestants et forces de l'ordre, mais nous verrons que les rassemblements de soutien aux immigrés se sont étendus depuis le début de la semaine à plus d'une vingtaine de villes dans l'ensemble des États-Unis. Nous verrons la crise politique que traverse aujourd'hui Benjamin Netanyahou, la Knesset, le Parlement israélien pourrait voter dans la journée la dissolution de la fragile coalition gouvernementale. Et puis au Brésil, le procès de l'ancien président Bolsonaro, il est accusé de tentative de coup d'État en 2022 après sa défaite face à l'actuel président Lula. Enfin, pression maximale en France pour le gouvernement après le meurtre d'une surveillante d'un collège tué à coups de couteau hier par un élève de 14 ans. La droite et l'extrême droite appellent à durcir les lois et critiquent le pouvoir en place.
On commence donc par la situation à Los Angeles. Moins de troubles, mise en place d'un couvre-feu et déploiement de la garde nationale.
25 personnes arrêtées à Los Angeles, coupables d'avoir violé le couvre-feu instauré par la mairie pour apaiser les tensions. Interdiction de se déplacer entre 8h du soir et 6h du matin pour éviter de nouveaux affrontements entre police et manifestants. Les troubles restent sporadiques et contenus. Vincent Souriau, mais les rassemblements de soutien aux immigrés se sont étendus depuis le début de la semaine à plus d'une vingtaine de villes dans l'ensemble du pays.
Et à New York, par exemple, rassemblement dans le calme et occupation de la voie publique. Des centaines de personnes se sont massées hier devant le siège de la police aux frontières à Manhattan, ainsi qu'aux abords des tribunaux chargés des dossiers d'immigration. Quelques troubles dans la nuit et plusieurs arrestations selon les services de police. Au Texas, une marche signalée dans le centre d'Austin, la capitale texane, pas plus de quelques centaines de protestataires. Là encore, dispersés dans la soirée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Un millier de personnes mobilisées à Atlanta, en Géorgie, contre la répression migratoire, ainsi qu'à Seattle, Boston, Chicago, Santa Fe, Pittsburgh, Minneapolis ou encore Las Vegas et même jusqu'en Floride. Dans leur immense majorité, ce sont des foules peu nombreuses et pacifiques, avec à l'issue de ces rassemblements quelques échauffourées et dégradations légères, des graffitis sur des voitures et des postes de police, des bagarres, parfois des bouteilles ont volé, des feux d'artifice ont été tirés, mais à ce stade, rien de gravissime. Le mouvement devrait se poursuivre aujourd'hui à Seattle, Saint-Louis, Indianapolis et ailleurs. En cas de débordement, Donald Trump prévient déjà que la force sera de nouveau employée contre les manifestants.
Et dans quelques minutes, on reviendra sur cette situation. On essaiera de comprendre avec notre invité ce que ça peut avoir comme conséquence, notamment sur la vie politique et sur la démocratie, puisque le gouverneur de Californie accuse Donald Trump de menacer la démocratie. Pour l'heure, on va parler de la situation politique en Israël. La coalition de Benjamin Netanyahou est en pleine crise, sauf solution de dernière minute. Le Parlement pourrait voter aujourd'hui la dissolution.
C'est un projet soumis par l'opposition et qui pourrait aboutir, car cette fois, les deux partis ultra-orthodoxes, des alliés habituels de Benjamin Netanyahou, ont menacé de le soutenir. Ils font pression sur le Premier ministre, lui demandant une loi d'exemption du service militaire pour les étudiants des écoles talmudiques, et ce alors que la grande majorité des Israéliens s'oppose à cette mesure. Alice Frossard, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Netanyahou s'accroche donc comme il peut.
Oui, et un peu comme un dernier effort afin de sauver sa coalition, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien poursuivi par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, s'appuie sur la menace iranienne. Celui que l'on surnomme le magicien utilise un argument bien connu. Il rappelle, je cite, qu'Israël est confronté à de nombreux défis et que dissoudre le Parlement serait la pire chose qui puisse arriver. Ce matin, les deux partis ultra-orthodoxes, Chasse et le parti judaïsme unifié de la Torah, ont pourtant confirmé leur intention de voter en faveur du projet de dissolution. Et sans leur voix, à la Knesset, le gouvernement ne disposerait plus de la majorité absolue. Ces derniers ne souhaitent pas forcément de nouvelles élections, car la coalition actuelle, la plus à droite, mais aussi la plus religieuse de l'histoire d'Israël, est celle qui leur est la plus favorable. Il s'agit donc davantage d'une forme de chantage des ultra-orthodoxes envers le Premier ministre. En revanche, il faut préciser que même si le projet de dissolution et adopté en première lecture, il faudra 3 votes supplémentaires au Parlement avant qu'il ne soit adopté définitivement, ce qui donne à Netanyahou un certain répit, même peut-être de plusieurs mois, le temps de trouver un compromis.
Merci Alice Roussard pour toutes ces précisions. J'ajoute que sur le terrain, il y a toujours et encore des tueries. La défense civile de Gaza annonce ce midi que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des personnes allant chercher de l'aide humanitaire. Le bilan est encore très lourd, 31 morts et au moins 200 blessés.
Un procès historique au Brésil, celui de l'ancien président Jair Bolsonaro.
Il est accusé de tentative de coup d'État en 2022 après sa défaite face à l'actuel président de gauche, Lula. Jair Bolsonaro s'est retrouvé hier pour la première fois face au juge devant la Cour suprême. L'ex-dirigeant d'extrême droite a nié toute velléité putschiste tout en admettant avoir réfléchi à des alternatives pour rester président. Explication à Rim Lipold.
L'audition était très attendue, mais sur le fond, elle n'a rien donné de spectaculaire. Jair Bolsonaro est resté fidèle à sa ligne de défense. Sur un ton poli, il a nié toutes les accusations.
Nunca se falou em golpe.
La possibilité d'un coup d'État n'a jamais été envisagée. Un coup d'État, c'est une chose abominable, a déclaré celui qui est accusé d'avoir conspiré avec de proches collaborateurs pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite. Et brandissant un exemplaire de la Constitution de 1988, il a ajouté... Je ne suis jamais sorti du cadre de la Constitution, tout en admettant cependant avoir réfléchi à des alternatives pour rester au pouvoir, mais toujours, dit-il, dans le cadre de la loi. À la fin de son audience de 2 heures, Jair Bolsonaro s'est même permis une petite plaisanterie. L'ex-président, déclaré inéligible jusqu'en 2030, a proposé au juge en charge du dossier, Alexandre de Moraes, qu'il avait pourtant qualifié de dictateur par le passé, de devenir son vice-président en 2026. Je décline votre offre, a sobrement répondu le juge.
L'Autriche s'est réveillée sous le choc après la fusillade qui a eu lieu hier dans un lycée de Graz, au sud-est du pays.
Fusillade qui a fait 10 morts, dont un élève français de 17 ans et une dizaine de blessés. 10 morts, plus l'auteur présumé, un Autrichien de 21 ans, ancien élève de ce lycée qui s'est suicidé après son crime. Une enquête est en cours pour déterminer son mobile, inconnu à ce stade. Pour toute l'Autriche, c'est un drame sans précédent. Un deuil national de 3 jours a été décrété.
Autre drame à Nogent, dans l'est de la France. Une surveillante d'un collège a été tuée à coups de couteau par un élève de 14 ans hier lors d'un contrôle de sac.
Les hommages se multiplient et l'incompréhension règne après le meurtre de cette assistante d'éducation de 31 ans. Une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires à midi. Le procureur de la République de Chaumont tiendra une conférence de presse dans l'après-midi pour donner plus de détails sur les circonstances et les motivations du jeune meurtrier. Ce drame a provoqué un choc dans le pays et relance le débat sur la violence des jeunes. On peut parler de pression maximale pour le gouvernement. La droite et l'extrême droite ont fustigé l'apathie de l'exécutif sur la question de la violence des mineurs et appelle à durcir la loi. De nombreux textes ont pourtant déjà été votés récemment et d'autres sont en cours d'étude. Aurélien de Vernois.
C'était il y a 3 semaines. L'Assemblée nationale adoptait une loi sur la justice des mineurs, durcissant les mesures judiciaires et tapant également les parents au portefeuille, objectif responsabiliser et réprimer. Insuffisant, selon l'extrême droite, le député UDR Éric Ciotti propose par exemple de réinstaurer l'encadrement militaire des mineurs délinquants et prône le durcissement sécuritaire. Cela tombe bien, un autre texte a été voté par le Sénat ce printemps. Il vise à protéger l'école et ses représentants et inclut notamment la fouille des effets personnels des élèves, précisément ce qui a eu lieu à Nogent lors du drame. Le texte pourrait être amendé pour inclure la question des portiques de sécurité évoquée par le Premier ministre François Bayrou. À gauche, on s'étrangle face à des réponses jugées exclusivement sécuritaires, alors que la santé mentale des jeunes est laissée de côté. Un texte en ce sens a pourtant été voté en 2022 et une batterie de nouvelles mesures devait être présentée ce mercredi par le ministère de la Santé. Faut-il donc de nouveau légiférer et surtout à quel prix alors que les caisses de l'État sont vides? La police judiciaire de la jeunesse a ainsi perdu 500 postes l'an passé.
C'est le plus grand événement d'Europe dédié à la tech. Le salon VivaTech a ouvert ses portes ce matin à Paris.
Près de 14 000 startups d'une 50aine de pays sont attendues jusqu'à samedi, porte de Versailles. Nicolas Fellmann, bonjour.
Bonjour Olivier.
C'est vous qui suivez l'événement pour RFI et ce matin un homme était au cœur des attentions, le patron de Nvidia.
Oui, et quand on parle ici de tech et d'intelligence artificielle, Nvidia, leader mondial des semi-conducteurs, est incontournable. Ces puces, elles sont indispensables pour développer les modèles d'IA générative, pour équiper les robots ou encore les voitures de demain. Pendant près de 2 heures, devant une salle comble, Jensen Huang, patron d'Nvidia, a présenté les toutes dernières avancées du groupe. Mais il a aussi parlé de ses ambitions pour l'Europe. D'ici 2 ans, Nvidia veut multiplier par 10 les capacités de calcul de l'IA sur le continent. Une vingtaine d'usines, des gigafactories vont être construites en Europe, des usines qui sont essentielles pour rivaliser face aux États-Unis ou à la Chine.
Et cet engagement Nvidia, en Europe va se matérialiser avec un nouveau partenariat avec le champion français de l'intelligence artificielle.
Oui, le français Mistral AI qui va lancer avec l'américain une plateforme d'intelligence artificielle. Pour schématiser, Nvidia va livrer ses puces, Mistral s'occupera ensuite de tout le reste. L'intérêt, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur pour développer une IA opérée et hébergée en Europe. De grandes multinationales et des laboratoires se sont déjà engagés à utiliser dès l'année prochaine cette IA Made in Europe.
Nicolas Feldman avec les moyens techniques Porte de Versailles de Nicolas Benita.
Toujours en France, Tesla a signé en justice par des propriétaires mécontents. Ils dénoncent le symbole d'extrême droite que ces voitures électriques sont devenues.
Une dizaine de clients français de Tesla ont assigné le constructeur automobile en justice, donc devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir la résiliation de leur contrat. Tous estiment ne plus pouvoir conduire sereinement ces véhicules en raison du comportement du patron Elon Musk. Pour leur avocat, ces usagers subissent un préjudice direct et concret qui les empêche de jouir de leur voiture au quotidien. Maître Yvan Terrel, le représentant des plaignants.
Eux-mêmes, dans leur quotidien d'utilisateurs de véhicules Tesla, ont eu à faire face à, alors pour certains, des actes de vandalisme. Ça peut être un tag de croix gammée, ça peut être retrouver sa voiture avec quelqu'un qui a déféqué dessus. Et puis, de manière plus générale, un certain nombre de citoyens qui, au départ, avaient acheté un véhicule Tesla parce que c'est un véhicule électrique qui permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui se retrouvent avec un véhicule qui est devenu une forme de totem d'extrême droite, et ce, à leur corps défendant. Ils réclament ce que le code civil leur permet de réclamer, c'est-à-dire, normalement, le vendeur doit à l'acquéreur la jouissance paisible du bien cédé. Là, ils considèrent qu'ils n'ont plus de possibilité, ils ne sont plus en capacité de jouir paisiblement de leur véhicule, et donc ils demandent la résiliation du contrat, de pouvoir restituer leur véhicule, ils demandent également des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi, de faire valoir ces demandes judiciairement.
Maître Yvan Terrel, l'avocat des plaignants interrogé par Anne Verdaguer, Elon Musk, justement, regrette aujourd'hui être allé trop loin dans ses critiques contre Donald Trump. La suite de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan qui se déroule en ce moment à Nice, c'est l'un des objectifs de la France à l'UNOC à Nice, le renforcement de la lutte contre la pêche illégale au niveau mondial. La France, justement, lance aujourd'hui un appel aux États pour qu'ils s'engagent et ratifient les différents traités internationaux existant pour mieux encadrer les pratiques de pêche. Jeanne Richard.
La pêche illégale, c'est 15 à 20 milliards d'euros de pertes pour l'économie mondiale. C'est une pêche qui ne respecte pas les aires marines protégées, qui vide les poissons de l'océan sans restriction, prive les petits pêcheurs de leurs ressources et met à mal les efforts de protection. Amélie Giardini de l'Environmental Justice Foundation explique que c'est aussi une pêche qui recourt à l'esclavage.
On a chaque année 128 000 pêcheurs qui sont en situation de travail forcé et 100 000 pêcheurs qui meurent dans le cadre de leur travail chaque année. Vous allez avoir souvent des travailleurs d'Asie du Sud-Est, alors souvent Indonésie. Et ce qu'ils disent, c'est on m'a dit que j'allais aller 2 mois en mer, que j'allais être payée, et quand je suis arrivée à bord, on m'a confisqué mon passeport. Et puis on m'emmène en mer et parfois je revois ni ma famille ni la côte pendant des années.
À bord, ces pêcheurs sont souvent maltraités, battus, mal nourris.
La pêche, c'est le Far West. Il y a une opacité terrible parce qu'en fait, on a des réseaux criminels organisés derrière toutes ces activités et la Chine est notre premier problème.
Les flottes taïwanaises ou sud-coréennes sont également pointées du doigt, parfois cachées derrière des pavillons d'autres pays ou des sociétés écrans.
Enfin, pour terminer, à Hong Kong, télécharger un jeu vidéo est une atteinte à la sécurité nationale. Dans l'ancienne colonie britannique, reprise en main fermement par Pékin depuis 2020, tout acte même minime de dissidence est contrôlé de très près par les autorités. Explication Nicolas Roca.
Il faut détruire la Chine communiste, notre république durera éternellement. Le jeu vidéo, ni Tong Jan Feng Ho ou bien Front renversé, met en scène tout ce qui déplaît au pouvoir central. Le joueur peut choisir son camp et toutes les régions et les peuples qui contestent l'hégémonie de Pékin sont représentés. Taïwan, Tibet, Kazakh, Ouïghour, Hong Kong ou Mongolie permettent de mener une armée qui doit renverser les communistes. Même s'il est possible de choisir l'armée populaire de libération pour vaincre tous les ennemis, les développeurs font passer un message. Ce jeu n'est pas une fiction. Toute ressemblance avec des agences, des politiques ou des groupes ethniques de la République populaire de Chine est intentionnelle. Les rouges sont accusés dans le jeu de corruption généralisée, d'exploitation ou encore de massacre. Suffisant pour que la police hongkongaise considère que toute personne téléchargeant le jeu, ou pire, faisant des achats dans l'application, puisse être accusée de possession de matériel séditieux, ou pire, de financement d'activités subversives.
Voilà, ce jeu de vidéo a donc disparu des plateformes de téléchargement. Tout de suite, la suite d'RFI Midi avec vous, Anne Contner.
Merci Olivier Sherman. Il est 14h15 à Paris et on va parler de l'actualité sportive. Bonjour Solène Ravenel.
Bonjour Anne.
On commence avec du football. Nous sommes à un an du début de la Coupe du Monde et le Brésil valide son ticket pour le Mondial.
Oui, les quintuples champions du monde seront bien en Amérique du Nord l'année prochaine. La Seleção vient de se qualifier grâce à sa victoire 1-0 face au Paraguay à Sao Paulo. But marqué par Vinicius Junior. Un beau cadeau d'anniversaire pour le nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti. Il fêtait hier ses 66 ans. L'entraîneur italien qui vient tout juste de quitter le Real Madrid. Il se réjouit de ce début d'aventure et se montre satisfait de la prestation de ses joueurs.
Nous avons un peu baissé d'intensité en deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, c'était un match complet et nous sommes très heureux de cette qualification. Bien sûr, nous savons que nous devons continuer à travailler. Nous avons un an pour le faire et il était très important de sceller la qualification lors de ces deux derniers matchs. Mes 15 premiers jours ont été magnifiques, à tout point de vue, magnifiques par l'accueil que m'a réservé le peuple brésilien. Aujourd'hui, au stade, ils m'ont offert de nombreux maillots. L'attitude des joueurs, la bonne entente entre eux, tout m'a plu. Tout ce qui manquait, c'était une victoire, et aujourd'hui, nous l'avons obtenue. Alors maintenant, nous allons de l'avant avec joie.
Faltava, come dicho, solo la victoria, lo hemos conseguido, entonces...
Et en Amérique du Sud, l'Équateur est également qualifié après son match nul 0-0 face au Pérou et l'Argentine première de son groupe était déjà sûre de participer au Mondial. Dans le reste du monde, l'Australie gagne sa place grâce à sa victoire face à l'Arabie Saoudite. Elle rejoint donc le Japon, la Jordanie, l'Iran, la Corée du Sud ou encore l'Ouzbékistan qui ont déjà validé leur ticket, mais aussi les États-Unis, le Canada et le Mexique, pays organisateurs.
Une rencontre amicale cette fois, mais un résultat historique. Le Sénégal l'emporte 3-1 face aux Anglais.
Les Lions de la Teranga ont fait sensation hier soir à Nottingham en Angleterre. Ils deviennent la première équipe africaine à battre la sélection anglaise en 21 confrontations. Le capitaine Harry Kane avait pourtant ouvert le score en début de match, mais comme lors du match nul vendredi dernier en Irlande, c'est Ismaïla Sarr qui a égalisé. Et à l'heure de jeu, Habib Diarra puis Cheikh Sabali, auteur de son premier but en sélection en fin de partie, ont permis aux Sénégalais de se détaché. La longue série d'invincibilité se poursuit. Toujours pas de défaite depuis l'élimination de la CAN face à la Côte d'Ivoire. De quoi faire le plein de confiance, même si l'équipe n'en manquait pas, selon le défenseur de Lyon, Moussa Niakate.
Nous sommes même des matchs sans défaite. Donc si on n'a pas confiance là, je ne sais pas quand on l'aura. Et je pense qu'on a confiance. On l'a montré sur le terrain, la manière dont on a joué, dont on a posé le ballon, dont on n'a pas paniqué. On a été mené au score comme il y a 2 ans face au Brésil. On a été mené au score et on a su revenir et en mettre 3 face à l'Angleterre qui n'avait jamais encaissé de but avec Thomas Tuchel. En fait, la confiance est au maximum. Maintenant, on va se reposer, on va reprendre en fait dans un premier temps. Inch'Allah, personne ne sera blessé, tout le monde sera apte. Et après, en septembre, on va essayer de faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire remporter ces matchs pour, encore une fois, faire un troisième mondial de fait.
Moussa Niakate au micro de Karim Baldé. La suite pour le Sénégal, c'est en septembre avec notamment un match contre la RDC capitale pour la qualification du Mondial 2026. Et dans un quart d'heure, on reviendra dans Afrique Midi sur ce match historique et on entendra les réactions des supporters avec notre correspondant à Dakar.
Et puis un petit mot de basket aux États-Unis. Le match 3 des finales de NBA démarre cette nuit.
Qui des Pacers du Camerounais Pascal Siakam ou d'Oklahoma City va prendre l'avantage dans ces finales? Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité, un match partout. Début du match 3 à minuit et demi TU dans l'Indiana.
Merci Solène Ravenel.
RFI. Le Monde à midi.
Tout de suite, on retrouve notre invité. Bonjour Françoise Coste.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure des universités et spécialiste de la politique intérieure américaine. On va revenir avec vous sur la situation en cours aux États-Unis, nuit sous couvre-feu en ce moment à Los Angeles. C'est une décision du gouverneur démocrate Gavin Newsom qui s'est très vivement opposé à Donald Trump. À cette décision d'envoyer la garde nationale contre les manifestants dénonçant des raids de la police de l'immigration. Qu'est-ce que vous pensez que cette décision de mettre en place un couvre-feu dans le centre-ville ?
C'est sans doute politiquement une bonne idée, puisque même si, et c'est le gouverneur démocrate, comme vous l'avez dit, qui accuse sans doute à raison Trump de mettre de l'huile sur le feu et d'avoir quelque part provoqué ces émeutes. Le problème, c'est que les émeutes, maintenant, elles arrivent, elles se passent, et que visuellement, politiquement, elles sont pour, eh ben, en fait, elles servent le discours de Donald Trump parce que les Américains, ils regardent ça à la télé. Bon, elles sont pas d'une énorme ampleur, mais c'est quand même assez choquant. La distraction des voitures, par exemple, bien sûr, les feux dans la ville, mais aussi et surtout le fait que beaucoup de manifestants, des meutiers, pendant qu'ils commettent leur délit, ont des drapeaux mexicains à la main. Et ils sont très fiers de montrer ces drapeaux mexicains.
Alors, au
et
point ça, que paradoxalement, le Mexique a démenti toute implication dans l'organisation de ces manifestations, pourquoi des drapeaux mexicains?
Alors, clairement, ces manifestations qui sont devenues des émeutes, on peut dire effectivement qu'elles ont l'air très spontanées. Après un raid, vous avez dit, de la police de l'immigration jeudi ou vendredi dernier à Los Angeles. Donc oui, les démocrates ne sont pas derrière ça, le gouvernement mexicain n'est pas derrière ces événements, ça c'est sûr. Par contre, les personnes qui y participent sont souvent d'origine mexicaine, on peut l'imaginer, puisque c'est souvent des immigrés clandestins mexicains que la police de l'immigration était venue arrêter et expulser. Donc, c'est des personnes légales ou illégales, qui sont aux États-Unis légales ou illégalement, on le sait pas. Mais en tout cas, elles ont des origines mexicaines, elles le montrent. Et ça, visuellement, ça sert, comme je l'ai dit, le discours trumpiste.
D'ailleurs, il le met beaucoup en avant. Lui, il met des scènes de violence en avant pour justifier donc l'envoi de l'armée. Face à ça, comment peut réagir le Parti démocrate? Parce que ça, ce sont vraiment deux questions, l'immigration et la sécurité, qui ont largement permis à Donald Trump de gagner la présidentielle.
On sent que les démocrates, ils sont encore très embêtés. On le sent parce que ils sont contre, bien sûr, ces déportations de masse, cette violence contre les immigrés. Donc, pour ça, politiquement, ils sont contre Trump. En même temps, on ne peut pas nier l'ampleur de la vague migratoire. On ne peut pas nier que l'opinion demande une politique ferme sur ces questions-là. Donc, un début de réponse, ben, c'est le gouverneur c'est le couvre-feu pour essayer de permettre au gouverneur de Californie de ne plus donner de ces images dont Trump se délecte.
Pendant que tout ça se déroule, pendant que ces décisions sont prises, ICE poursuit ses raids contre les migrants, notamment en ce moment dans des zones agricoles de Californie. Jusqu'à présent, c'est un secteur qui avait été plutôt épargné par les arrestations massives. Pourquoi, selon vous, l'administration Trump choisit-elle de s'y attaquer maintenant ?
Alors, c'est une très bonne question parce que, certes, il y a de l'immigration clandestine dans les villes, comme on l'a vu à Los Angeles, mais en réalité, les gros chiffres de clandestins, c'est souvent dans l'agro-business, dans l'agriculture, dans les champs, pas qu'en Californie d'ailleurs, parce que c'est des jobs que aucun Américain ne veut faire, dans les abattoirs, dans les champs, c'est physiquement difficile, c'est dangereux. Bon. Donc, tout le monde sait très bien que la majorité des clandestins qui habitent aux États-Unis travaillent et qui travaillent dans ce type de job. Pour l'instant, c'est vrai, ICE n'a pas été trop allé voir là-dedans. Alors, beaucoup de questions d'hypothèses circulent parce que il y a de tellement grands chiffres que ce serait plus difficile et dangereux que d'aller chercher deux ou trois clandestins qui travaillent dans les cuisines dans McDo à Los Angeles. Ou économiquement, ça pose la question, en fait, le cœur du problème. C'est que oui, il y a beaucoup de clandestins aux États-Unis, mais c'est des gens qui travaillent. Et ils travaillent dans des secteurs où ils sont les seuls qui acceptent de travailler. Donc, par certains aspects, on peut dire que des pans entiers de l'économie américaine reposent sur le travail de ces clandestins. Et que le monde du business le sait, le monde du business est très proche du Parti républicain. Donc, le monde du business, là, dans ce cas-là, de l'agro-business, n'a peut-être pas très envie que la police de l'immigration aille aller voir ce qui se passe dans les fermes ou les ranchs ou les abattoirs. Donc, là, on met le doigt sur une des potentielles problématiques, paradoxes du trumpisme, qui est la tension entre le discours anti-immigration et les intérêts économiques du pays.
Ce discours anti-immigration qui est vraiment le choix principal qu'il a fait, c'est ce qu'il met en avant depuis quasiment le début de son mandat et puis évidemment pendant sa campagne. Là, dans ce contexte de Los Angeles, il a choisi la force et on voit bien que ça donne des idées chez les Républicains puisque le gouverneur du Texas, où vit aussi une importante communauté latino, a ordonné également le déploiement de la garde nationale. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ?
Clairement, ça montre que stratégiquement, les Républicains se savent en position de force sur la question de l'immigration, comme vous l'avez dit, et qu'ils préparent concrètement la campagne des législatives de l'année prochaine, des midterms. C'est-à-dire que cette campagne des législatives, ils ne veulent pas qu'elle se passe sur la question de l'économie ou de la politique étrangère. Ils vont tout miser sur l'immigration. Et quelque part, ils ont raison parce que ça leur réussit.
Et est-ce que ça peut fracturer encore plus les États-Unis? Parce qu'on voit bien déjà la division quand on regarde la carte des villes où se déroulent les manifestations. Et puis là, le Texas qui s'aligne sur le président, on voit déjà la division. Ça peut aller plus loin que ce qu'on observe aujourd'hui?
Ah oui, parce que ça divise, vous l'avez dit, les démocrates, mais ça divise aussi la communauté hispanique elle-même. C'est-à-dire que en 2024, l'année dernière, Trump a obtenu de très bons résultats chez les électeurs, en particulier masculins, d'origine mexicaine justement, d'origine latino-américaine, spécifiquement mexicaine. Donc à l'intérieur de la communauté même, il y a beaucoup de Mexicains qui sont légalement aux États-Unis ou qui sont devenus citoyens, qui eux aussi soutiennent en fait les expulsions de masse des clandestins.
Et donc ça aussi, donc, voyez, ça pourrait s'observer de nouveau l'année prochaine pendant la campagne pour les midterms. Je vous remercie beaucoup Françoise Coste d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes historienne et professeure des universités. Merci.
Au revoir.
Nous vous emmenons maintenant en Suisse. Reportage dans les fonderies du pays. 5 des 7 plus grandes du monde pour les métaux précieux se trouvent dans ce pays très riche d'Europe de l'Ouest. Et depuis le début de l'année, les machines tournent à plein régime pour travailler l'or. Depuis que Donald Trump a créé la panique avec ses décisions erratiques sur les droits de douane dans le monde, le concept de valeur refuge de l'or s'est renforcé et le cours du précieux métal doré a explosé. Reportage, Jérémy Lanche.
Les lunettes de protection. Ok.
Nous sommes à Mendrisio, petite localité du canton italophone du Tessin. L'entreprise Argor Ereus est l'un des leaders de ce secteur pas comme les autres. Et c'est son directeur qui sera notre guide, Robin Colvenbar, incollable sur tout le processus industriel.
Voilà, ça ce sont les fourneaux. On fait fondre l'or dans ces sortes de casseroles en carbone à plus de 1000 degrés. On obtient un or brut, liquide, qu'on verse dans des moules. On peut alors le travailler.
Deux types de lingots existent, les lingots moulés à l'aspect plus brut et les lingots frappés, plus lisses et plus chers aussi. Pour les tailles, cela va de 1 gramme pour les petits investisseurs jusqu'au plus gros lingot popularisé par les westerns.
Ok, donc là on me demande de porter un lingot. Ah oui, d'accord. Ok, donc là je suis en train de soulever 1 300 000 $.
Soulever un lingot est définitivement une expérience enrichissante, mais travailler tous les jours entouré par des palettes entières de lingots en est une autre. Cet ouvrier le jure pourtant, il n'y fait même plus attention.
Pour moi, c'est comme si c'était une palette de chocolat, je vous assure. Je ne pense pas à sa valeur. Bien sûr, je le manipule avec tout le soin requis pour un métal précieux. Mais ce serait du bois ou du fer, ce serait pareil.
1380 tonnes d'or sortent de la fonderie chaque année. Cette année, ce sera forcément un peu plus. Même si les exportations ont sensiblement baissé depuis quelques semaines, assure Robin Colvenbar, les coffres des investisseurs américains sont désormais pleins à craquer.
À mon avis, cette ruée vers l'or américaine est terminée. Mais les investisseurs vont continuer à acheter de l'or pour s'affranchir du dollar tant qu'il y a cette insécurité à propos de la dette américaine.
Avant Donald Trump, la Suisse exportait une dizaine de tonnes d'or chaque mois aux États-Unis. Juste après son élection, c'était plutôt 100, voire 195 tonnes au plus fort de la crise. Le patron d'Argor Ereus assure que le marché nord-américain ne représente que 10 à 20% maximum de ses ventes. Mais il n'empêche, si Donald Trump décidait de taxer les métaux précieux au même titre que le fer et l'aluminium, les fonderies suisses seraient forcément affectées. Mais avec un prix qui flirte avec les 3000 euros l'once d'or, 31 grammes à peu près, et qui pourrait encore grimper, le secteur a encore de quoi voir venir. Jérémy Lanche à Mendrisio dans le Tessin, RFI.
Un reportage à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Vous y retrouvez toutes nos informations. Vous pouvez aussi vous rendre, si vous le souhaitez, sur notre site rfi.fr. Restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 30 secondes pour l'actualité africaine avec Nicolas Sûr. Et puis à partir de 13h, temps universel, ce sera notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. A tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI,
C'est pas du vent, est à Nice, Anne-Cécile Bras.
Le club de C'est pas du vent accueillera 7 journalistes.
tous mobilisés pour couvrir cette troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Nous vous dirons tout sur cet événement et ses coulisses en direct de la baleine.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.